Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission composée comme chaque dimanche par un plat du jour et une madeleine. La madeleine, c'est Matteo Caranta qui l'incarne d'une certaine façon. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Qui donc vous a confié sa madeleine aujourd'hui?
C'est la comédienne Dominique Blanc de la Comédie Française.
À tout à l'heure, 12h15 pour l'écouter. Et pour notre plat du jour, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un homme qui incarne l'excellence de la cuisine française. Dans la famille des chefs iconiques, il est l'un des plus grands, même s'il se fait très discret. Depuis 60 ans au fourneau, il est à la tête d'un restaurant qui a 3 étoiles au guide Michelin depuis, tenez-vous bien, 33 ans. Sa maison est 6 place des Vosges à Paris. Elle porte le nom de la nourriture des dieux de l'Olympe, mais rare et délicieux qui procure l'immortalité, l'ambroisie. Et pourtant, si l'on devait séparer les hommes en deux familles, ceux qui sont dans les esbroufs et les humbles, les sauvages, ils seraient plutôt dans la deuxième catégorie. Le guide Michelin écrit d'ailleurs « L'homme est un taiseux, ça tombe bien, sa cuisine parle pour lui. » Un homme tout en émotion, jusque dans sa cuisine, c'est ce que l'on découvre dans un très beau livre écrit par son ami de 30 ans, le grand reporter et documentariste Frédéric Laffont, prix Albert Londres, à qui il a raconté sa vie cabossée d'enfant abandonné devenu cuisinier hors pair, comme il avait commencé de le faire dans un documentaire il y a 20 ans, Secret cuisine de l'Ambroisie.
Voici l'histoire de Bernard Pacot, chef de l'Ambroisie, un 3 étoiles d'exception, place des Vosges à Paris. Enfant, il dessinait des restaurants.
Bonjour Bernard Pacot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. C'est vrai ça, enfant,
vous dessinez... Merci de m'inviter.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Enfant, vous dessinez des restaurants, c'est vrai ça?
Exact, oui. Bon, chez Brasier.
Chez la mère Brasier. Vous étiez venu nous parler de la mère Brasier, chez qui vous avez passé 4 ans quand vous aviez 14 ans, il y a quelques mois maintenant, hein, à la Grande Table. Et pas à la Grande Table, aux Bonnes Choses. Et vous dessinez quoi comme type de restaurant quand vous étiez enfant? Ils ressemblaient à quoi, vos restaurants?
Imaginaire. Oui. Mais ils ressemblaient, je crois que je devais intégrer ma maman dedans, je devais intégrer que tous les gens qui étaient... Un restaurant, mais c'était plus une table que je pense que je dessinais.
Alors ce livre dont je parlais, qui vient de sortir aux éditions L'Iconoclaste, s'intitule « Une vie par le menu ». Je disais, Bernard Pacot, que vous êtes connu, réputé pour être quelqu'un de très discret. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'ombre à la lumière après tant d'années plutôt de silence, disons, même si de fait, vous ne parlez pas dans le livre.
C'est une parole
transcrite.
Je parle très peu. Non, mais c'est Frédéric qui m'a proposé de faire un livre sur mon vécu.
Vous êtes timide aussi en cuisine, en brigade, quand on vous entend?
Non, en cuisine, c'est complètement, c'est un autre homme.
On entendra quelques mots de vous en cuisine tout à l'heure.
Ah oui, d'accord, je sais qu'elle sait.
Les bouquets du lundi goûtent rarement la lumière du jour. Derrière les volets clos, 12 tables au repos dévoilent leur nudité à des guerriers immémoriaux dont le geste reste figé sur une tapisserie d'Aubusson. Tes pas arrachent quelques râles au parquet en vieux chêne. Tu ouvres une fenêtre, la place des Vosges somnole. Ta première attention est pour les pivoines. Tu les trouves belles encore. C'est vrai, ça aussi, que votre première attention, Bernard Pacot, c'est pour les fleurs?
Oui, ça me détend. Après, la journée se passe beaucoup mieux. Oui, j'adore ça. Mais j'ai connu ça chez la mère Brasier.
Il y avait des fleurs aussi?
Il y avait un jardin plein de fleurs et tout ce qui était les herbes qu'on cueillait pour la cuisine. La mère me disait, cueille quelques fleurs.
Et il y en a sur les tables. On fera un bouquet qu'on mettra sur les tables. Ça fait 60 ans que vous êtes au fourneau, dont 30 et quelques dans les étoiles. Est-ce que ça fait de vous, Bernard Pacot, et de l'Ambroisie, un cuisinier classique et de l'Ambroisie un restaurant classique, comme on dirait d'un grand livre, qu'il est un classique?
Tout le monde dit ça, que je fais une cuisine classique.
Mais ça vous fait plaisir qu'on dise ça?
Je pense que j'essaye de garder cette cuisine, oui, comme référence pour la France. Je trouve que c'est la cuisine. Bon, maintenant, ça évolue. Hein, les nouvelles. Maintenant, c'est une cuisine. Les jeunes ont ils ont plus envie de changer. Ils en ont parce que la cuisine classique, il y avait quand même tous ses défauts, des sauces lourdes, des crèmes. Mais nous, on a, quand j'étais chez Claude Perrault, on est, comme il disait, un mot que j'aimais pas beaucoup, mais on est pur. C'est une cuisine épurée chez Claude Perrault. C'était un cuisinier exceptionnel, Perrault. Il était en avance sur tout.
Claude Perrault, c'était le chef du restaurant 3 étoiles également, le Vivarois.
Le Vivarois, oui.
Et qui vous a formé après la mer Brasier.
Oui, qui m'a formé après la mer Brasier.
Qui était à Lyon. Donc c'est vos deux références. Alors elle avait plutôt une cuisine rustique, cuisine à l'ancienne, on pourrait dire. Hein.
De femme.
Voilà, de femme. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, c'est-à-dire que c'est une cuisine où, une cuisine très généreuse, où on essaye de donner le meilleur de soi-même.
Et c'est pas vrai d'un homme, vous donnez pas le meilleur de vous-même, vous?
Ben moi, je travaille. Moi, j'ai eu les deux. Hein, donc j'ai eu un chef extraordinaire, une femme qui s'est occupée de moi. J'étais orphelin et qui m'a donné un métier, un toit. Donc j'étais dans cette cuisine-là chez elle. Mais comme elle le disait, ici, on fait pas une cuisine d'homme. C'est-à-dire qu'on est pas dans les frivolités. On est, comme disait Perrault, il y a pas de décor sur l'assiette, il y a pas des petits points. Oui, non. C'est le produit par lui-même qui est là.
Et lui, alors, c'était le héros de cette, à l'époque, hein, de cette nouvelle cuisine, salué d'ailleurs par le jeune Goemio, le guide, qui était dans un décor ultra, ultra moderne.
Ultra moderne, oui.
Alors, d'un côté, la mère Brasier, de l'autre, Claude Perrault, Bernard Paco, est-ce que, aujourd'hui, je sais que pendant longtemps, vous avez considéré que vous faisiez une cuisine qui était porteuse, fruit de ces deux références. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous faites votre propre cuisine et plus celle de la mère Brasier ou plus celle de Claude Perrault?
Oui, je fais, oui, c'est sûr. Bon, il y a un moment où vous êtes obligé de faire votre cuisine. Vous êtes obligé de prendre les bases de la cuisine classique. Et après, bon, vous faites une, vous êtes sur notre cuisine, peut-être de Perrault, même de l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas. Après, ce qui a beaucoup amélioré la cuisine, c'est quand même tous les ustensiles qu'on a fait. C'est vrai, bon, ça n'existait pas pour faire le persil haché, le robot coupe. Il y a plein de choses. Il y a pas les fours à micro-ondes. Il y avait pas chez la mère Brasier, c'était un fourneau à charbon. Hein, il fallait connaître la chaleur. Il y avait pas un thermostat qui vous disait c'est cuit. Hein. C'était beaucoup plus de travail et beaucoup plus de réflexion sur le travail.
Vous disiez que votre cuisine était une cuisine qui se voulait une référence, qui se voulait classique au sens de la gastronomie française. Comment fait-on, Bernard Paco, pour rester classique? Est-ce qu'on fait une cuisine intemporelle et qu'est-ce que ça voudrait dire une cuisine intemporelle? Puisqu'effectivement, les goûts changent. Alors, est-ce qu'il y a des invariants pour rester à la fois dans une cuisine qui est une cuisine traditionnelle, mais en même temps s'adapter, non pas aux modes? Vous n'êtes pas pour les effets de mode, mais s'adapter à la modernité. Comment on fait?
La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Hein. Donc je pense que pour moi, par rapport à la mère Brasier, il y a beaucoup de... Tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a donné, je pense que c'est peut-être ça qui me bloque sur cette cuisine-là. Mais bon, pour moi, c'est qu'une très belle cuisine.
Une cuisine intemporelle, ça a du sens pour vous? Il faut que la cuisine soit tout le temps en renouvellement.
Oui.
Chaque
saison.
Oui, c'est les saisons qui fait ça.
Ben moi, c'est les produits qui m'aident à faire des plats. En plus, je peux quand même le dire. Quand je vais manger chez des collègues, bon, c'est vrai que s'il y a une petite touche qui me plaît, j'essaye de l'utiliser, mais pas reproduire le même plat. Mais ça me donne des idées, bien sûr. Les idées, dans les voyages. Comme moi, je suis allé en Russie, je suis allé en Chine, je suis allé au Japon. C'est sûr que j'ai ramené plein d'idées que je connaissais pas sur ces cuisines-là.
Une idée qui naît d'une image, qui naît d'une émotion, qui naît d'une sensation, qui naît d'un mot.
De tout.
Tout ça à la fois.
L'image, le goût. Oui, une sensation aussi. On s'est dit, zut, j'ai jamais compris ça, mais je découvre ça. Même lorsque je suis allé chez El Bulli, là, qui faisait la cuisine moléculaire, c'était exceptionnel.
Qui était en Espagne,
c'était exceptionnel.
Cuisine moléculaire.
Oui.
À l'époque, hein, il y a une vingtaine d'années maintenant.
Oui, il y a longtemps, oui. Non, mais découvrir ça, et pourtant, beaucoup de gens me disent, oh, mais non, ça va pas te plaire.
Mais surtout, vous ne faites pas ça.
Non, je fais pas ça. Mais j'ai quand même passé une journée... Tous les gens qui m'avaient invité, ils m'ont dit, ah, mais c'était la première fois quand je suis venu, c'était meilleur, c'était pas comme ça. Non, non. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous savez, le caviar et le bully avec à base de pommes vertes, avec sa petite boîte de caviar, c'est marqué caviar et bully. Et c'est que des petits grains qui je sais pas comment ils travaillent ça. Moi, je connais pas tout cette chimie là, mais c'était à tomber par terre. Mais comment on peut faire ça? Mais c'était au début, tout à ses débuts. Hein. Après, on a découvert plein de choses, mais c'était exceptionnel. Et je dormais à Rosa dans un hôtel juste à côté. Et ces gens-là étaient venus manger chez nous, le chef avec le patron. Et le matin, il me dit mais vous prenez l'avion à quelle heure à Montpellier? On prenait l'avion à Montpellier. J'ai dit bah, écoutez, moi j'ai 2 heures. Il me dit mon chef voudrait vous faire goûter nos spécialités. Parce que dans la nuit, ça aimait beaucoup travailler quand même cette cuisine, hein, parce que ça travaillait beaucoup de chefs aussi. Hein. Ils disaient mais attends, on n'est plus dans la réalité là. Et donc il me fait des plats espagnols. Les grands classiques, les poivrons farcis, les anchois, tout ça a été très bon. Eh bien, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit merci, grâce à vous, je revis. Parce que c'est ça la cuisine, c'est pas l'autre, c'est du. Comment on peut dire? Bien que j'ai été surpris par cette cuisine, mais ça, je savais que j'étais encore dans le rouage du métier.
C'est une fascination pour la cuisine moléculaire que vous partagez avec d'autres chefs, vous le dites, hein, Bernard Pacot. Par exemple, Thierry Marx, avec qui vous partagez autre chose, c'est la passion pour les arts martiaux.
Voilà, j'allais le dire, oui.
La passion pour les arts martiaux. Et il répondait dans des entretiens à voix nue à la question quel est le lien entre art martial et cuisine. Écoutez-le.
La cuisine et l'art martial, je dirais que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est la maîtrise du geste, du feu, du temps. Quand je vous le dis pour la cuisine, maîtrise du geste, coupe juste, goût juste, gestion de votre plan de travail, votre écosystème autour de vous, la maîtrise du feu, l'énergie qui va cuire, et le temps, le bon temps pour agir, et la bonne saisonnalité. Vous prenez un art martial, que ce soit le judo, l'aïkido, le kendo, le yaito, ce que vous voulez, le jujitsu, c'est la même chose. Précision du geste, trop tôt. C'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Et le mauvais geste ne servira à rien, si ce n'est à vous prendre un coup qui va être un mauvais coup. La maîtrise du feu, ben là, c'est pas le feu, c'est votre feu à vous. C'est votre énergie, couplée à l'énergie des autres. Donc là aussi, c'est la maîtrise de votre feu intérieur qui va vous permettre, en le dominant tant soit peu, ou en le régulant tant soit peu, qui va vous permettre de traverser une situation qui pourrait être empirique ou dangereuse. Et le timing pour le faire, encore une fois, si vous n'êtes pas à la bonne distance, si vous n'êtes pas dans le bon timing, il ne se passera rien. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes approches. Et puis, je vous dis ça pour la cuisine, je vous dis ça pour l'art martial, mais est-ce que dans la vie, c'est pas à peu près pareil?
Bernard Pacot.
Ah oui, j'adore. Oui, il a raison. Moi, j'adore l'écouter. C'est quelqu'un qui résonne très très bien et qui a des mots justes. Oui, je peux me permettre de m'excuser pour eux, parce que j'ai jamais mangé chez lui.
Parce qu'ils vous entendent.
Hein?
Parce qu'ils vous entendent. À vous écouter, on comprend tout à fait la phrase qu'écrit Frédéric Laffont dans ce livre, Bernard Pacot. Il dit « La mère et toi, vous êtes les enfants de paysans qui ont eu faim. Vos cuisines étoilées gardent une trace de cette nuit ». C'est peut-être ça qui fait que même si vous côtoyez les étoiles, vous avez toujours les pieds sur terre, Bernard Pacot.
Bah oui, il faut. Il faut pas tout de suite, parce que vous avez 3 étoiles, vous prendre pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous restez qui vous êtes. Il faut penser à tout. Moi, je pense à mes origines, à mon vécu. Et je sais que j'ai de la chance d'avoir eu ces 3 étoiles, j'ai la chance d'avoir un restaurant qui marche, j'ai la chance d'avoir eu Daniel.
Votre femme, oui. qui est très très important, Daniel, oui. qui est là, oui, à l'Ambroisie, mais midi et soir, oui, oui, en salle. Oui, la seule femme d'ailleurs en salle.
Oui, bah oui, mais à elle seule.
On occupe plusieurs.
C'est plusieurs. Hein.
Jérôme, quand tu veux les consommer, Jérôme.
Ouais,
on y va.
Bon, on vient décortiquer derrière. Allez.
À qui? Tu montes l'hollandaise? Regarde. L'assiette.
6, on y va.
Allez, 6.
Vous êtes prêts? On passe. Chef.
Voilà, c'était vous en cuisine, Bernard Paco, dans un extrait de ce film réalisé par Lafont il y a une vingtaine d'années. Il est 12h15 sur France Culture, c'est Les Bonnes Choses, et dans Les Bonnes Choses sur France Culture à 12h15, eh bien, nous écoutons la Madeleine, Mathéo.
Oui, moi je suis allé à la rencontre, je vous le disais tout à l'heure, de la multi-césarisée, multi-moliérisée Dominique Blanc de la Comédie Française, qui m'a reçu entre deux répétitions, puisqu'elle joue jusqu'en janvier dans deux pièces en alternance dans la mythique salle Richelieu. Il y a la reprise de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, mise en scène par Julie Delicat, et Les Démons de Dostoïevski, amenés par Guy Cassier. Deux pièces qui interrogent à leur manière, et chacune dans leur époque évidemment, le désenchantement du monde, ses vérités, ses passions, ses fantômes. Alors je vous ramène à la Madeleine, ne vous en faites pas. Les fantômes qui peuplent, eux, la Madeleine de Dominique Blanc, ils sont joyeux. Ils nous ramènent aussi peut-être à la mer Brasier, en tout cas à sa région, et ils ont le bon air de la dombe.
Ma Madeleine, c'est une tarte dombiste. C'est un dessert en tout cas qui est fabriqué et qui vient de la Dombe, qui est une région extrêmement belle dans les alentours de Lyon. C'est là où je passais mes vacances d'enfant. Et quand on était rassemblés tous, c'est-à-dire les frères et sœurs, les voisins, les copains, enfin ça faisait une grande tablée, ma mère, qui était une femme incroyablement, je sais pas comment dire, qui était vraiment une femme courageuse et généreuse, était une grande cuisinière. Et donc elle faisait cette tarte dombiste qui nous régalait tous, les petits comme les grands. Il s'agit, je ne peux pas vraiment vous donner la recette, mais si vous enquêtez, vous allez la trouver. C'est un petit peu comme une immense tarte dont les bords sont en brioche. Donc c'est de la pâte briochée peut-être. Et puis c'est couvert de sucre. Et au centre, il y a bien évidemment à la fois de la crème et du sucre. Et c'est ma Madeleine parce que à la fin de ces repas de vacances, les enfants se jetaient littéralement sur la tarte dombiste. Et les adultes qui avaient déjà mangé du fromage laissaient faire les enfants. Et c'était un grand moment de partage. Et cette fin de repas, c'était aussi un grand moment d'apaisement. Avec, derrière tout ça, la présence de ma mère, qui était vraiment une cuisinière d'exception. Et moi, je pense très souvent aux fantômes de ma vie, c'est-à-dire à ceux qui sont partis en temps et en heure, avec des vies plus ou moins faciles, plus ou moins... Voilà, je pense souvent à ma mère parce que ma mère, les 20 dernières années de sa vie, a eu une maladie absolument atroce. Enfin, il n'y a pas de bonne maladie, mais elle avait toujours cette envie de cuisiner, de partager, de... Vous voyez ? Voilà. Alors, elle ne donnait pas toujours ses recettes. Ou parfois, elle faisait un truc qui me fait beaucoup rire. Elle donnait des fausses recettes. Et je me suis dit que probablement dans la région, il y a des livres de cuisine et il y a sûrement la cuisine dombiste à un moment ou à un autre. Et je vais retrouver la recette de cette tarte dombiste.
Je pense que nous allons enquêter pour vous, nous allons la retrouver, nous allons poster cette recette sur le site de France Culture. Merci beaucoup Dominique Blanc.
Vous l'avez retrouvé, Mathéo ?
Oui, mais alors, une vraie enquête, parce que tarte tombiste, ça n'existe pas. Mais en fait, il y a galette de lin, galette des fêtes, galette Bressane, on entend, galette de Pérouge.
De Pérouge, oui.
Voilà. Et donc, alors, la galette de Pérouge est au sucre, la galette Bressane est à la crème. Attention, il n'y a que quelques kilomètres qui séparent les deux, mais voilà.
Quand même, dit Bernard Paco, qui a vécu à Lyon. Attention, pendant 4 ans, il connaît.
Chez Brasier, on en faisait à peu près 12 par jour. Donc, les galettes Bressane.
Voilà.
Mais à la crème, hein.
Exactement, donc la recette évidemment est sur le site de France.
À Pérouge, et c'est des grandes galettes énormes. C'est magnifique Pérouge, hein. C'est un petit village qui doit dater, je sais pas moi, du 15e, 16e. Et là vous avez ces grandes galettes, mais c'est que du sucre, c'est même, bon, je ne peux pas le dire, mais bon, c'est un peu sec même. Mais la crème, c'est quand même autre chose.
Voilà. La crème, c'est important, parce que la crème, pour vous, c'est particulier, Bernard Paco.
Surtout
parce que
dans la région. Hein.
Surtout dans la région, mais aussi parce qu'effectivement, vous avez travaillé longtemps avec la mère Brasier qui vous a tant marqué, mais les textures dans votre cuisine comptent énormément, comme dans toute bonne cuisine, j'ai envie de dire, mais quand même, chez vous, il y a beaucoup de mousse, beaucoup de fondant, beaucoup d'aérien. C'est une cuisine que j'ai envie de qualifier de douce. Mais c'est peut-être parce que...
Une cuisine de femme.
Ah, je ne sais pas. Peut-être parce qu'effectivement... Non, mais c'est peut-être aussi... Voilà,
la douceur. La douceur.
Vous avez passé quelques temps avec votre mère et avec votre père adoptif. Ça criait beaucoup et tout le temps. Et vous dites dans le livre de Frédéric Lafont que, enfant, vous faisiez à manger pour réconcilier, pour apaiser, pour éviter les coups. C'est peut-être pour ça aussi que votre cuisine aujourd'hui, elle est encore...
Je faisais pas la cuisine. À 8 ans, je faisais pas la cuisine. Mais j'aidais beaucoup.
Oui, vous aidiez beaucoup.
Je mettais à table, je faisais... Pour pas que ma maman soit que le conflit tous les soirs ou tous les jours s'atténue. J'étais là, présent, mais bon.
On entendait dans la Madeleine de Dominique Blanc les fantômes. Souvent dans la Madeleine, les fantômes sont ceux de la mère, ceux de la grand-mère. Peut-être des deux chez vous aussi, Bernard Pacot, puisque votre mère faisait un civet de lapin. Mais et vos grands-parents en Bretagne, ils cuisinaient aussi tous les dimanches midi. Il y avait des plats particuliers. Vous nous en parleriez?
De tous les plats?
Ouais, non, pas tous les plats du dimanche midi. Peut-être du civet de lapin. Du civet de lapin.
Du civet de lapin, mais oui, bien sûr. C'est lorsque ma maman, elle était aussi une fille mère, donc ça se faisait pas dans les villages, donc il m'avait gardé. Il a dit je m'occupe de ton fils, mais toi tu restes pas ici. Donc elle est partie à Rennes. Elle a rencontré un Lyonnais qui faisait son service militaire. Ils sont mariés. Ils ont eu deux enfants. Qui étaient mes demi-frères. Et moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans chez
grands-parents.
Mes grands-parents. J'ai vécu là.
Dans les Côtes d'Armor.
Les Côtes d'Armor, oui, entre Saint-Brieuc et Quintin. Et donc, à 6 ans, une femme d'assistante sociale, elle dit, bah oui, mais il faut bien qu'il aille à l'école. Donc, c'est là que ma mère m'a récupéré à Lyon. Et donc, le civet... Alors, ils étaient fâchés, ma maman et ses parents, il y a eu une rupture totale. Et là, j'avais 7, 8 ans, tous les ans, elle me ramenait pour mes vacances en Bretagne. Et on a tué un lapin le matin. Comme mon grand-père faisait, il prenait un bout de bois, il le pendait par les pieds, il lui donnait un coup juste derrière les oreilles, après il arrachait l'œil, et moi je prenais un petit verre, et je récupérais le sang. Parce que ça saigne comme ça. Et donc, avec ça, elle a fait un civet. C'est-à-dire que le sang permet de lier la sauce. Et comme le raconte très bien Frédéric, tout le monde était là à regarder ma maman, en train de faire son civet. Et même ma grand-mère, qui était une cuisinière qui a travaillé dans les maisons bourgeoises, elle n'a pas bougé. Le grand-père n'a pas bougé. Et c'était formidable. Alors, il y a peut-être le civet, la recette, mais il y a surtout la situation qui s'est passée là. Je crois qu'ils se sont reconstruits.
Bah, Paco, vous cuisinez du lapin aujourd'hui à l'Ambroisie?
Pas beaucoup, pour le personnel, mais nous, on n'en fait pas pour les clients, non.
Depuis plus de 30 ans, en tout cas, il y a des plats qui sont récurrents, qui sont comme des plats signatures. Oui. La feuillantine de langoustine aux graines de sésame sauce curry, mm-hmm. Les escalopines de bar à l'émincé d'artichaut caviar golden et la tarte fine sablée au cacao amer crème glacée à la vanille bourbon. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez créé ces plats?
Oui.
Comment ils sont venus?
Donc, ils sont venus, on a eu la troisième étoile en 88, c'est dans ces années-là, en 88-89. On venait avoir trois étoiles, il fallait que je prouve quand même que je les méritais, donc on s'est fait. Alors, la feuillantine de langoustine au sésame, ça ressemble à un hamburger, mais c'est pas un hamburger, c'est exactement la même forme. Et bon, c'était vraiment une grande réussite, ce plat-là. Après, il y a eu le bar, ça s'est fait bien plus tard. J'avais été manger chez Sophie Pic. Non, elle n'était pas encore cuisinière, c'était son frère ou son père. Et j'avais mangé un super bar au caviar, mais alors, pas du tout fait pareil. Vous avez vu, nous, c'est des petites escalopines qui sont montées sur des artichauts. Là, il y avait simplement le bar avec une grosse cuillère de caviar. Je dis, mais c'est vrai, mais ça se lit, ça va très bien ensemble. Vous avez le côté de l'iode, vous avez le salé, le caviar qui est un peu plus salé, et vous touchez pas l'assaisonnement du bar. Et après, on a fait ce plat-là, qui est venu un plat que je peux plus enlever. Qui est
emblématique de la maison.
Et très art déco dans l'image.
Et la tarte fine au chocolat?
Ça, je l'ai fait pour un autre... C'était un membre du Club des 100 qui voulait... on devait faire un repas. C'était la grande époque des tartes au chocolat. Tout le monde en faisait. Hein. Mais c'était la plupart étaient faites avec une pâte sucrée ou brisée. Et ils mettaient du chocolat, des ganaches qu'ils mettaient. Après, bon, ils rajoutaient... on peut rajouter des noisettes. Et moi, il m'avait dit, mais moi, je veux une tarte légère. Hein, à la fin d'un repas, il faut que ça soit léger. Alors, j'ai testé, j'ai fait... c'est un peu comme la bêtise au Cambrai, vous savez, ça marche ou ça marche pas.
Et là, ça marche.
Et j'ai fait une mousse au chocolat, comme tout le monde sait le faire. Et je l'ai cuit. Je l'ai cuit pendant 8 minutes, et ça tient. Et ça marche.
Et ça fait plus de 30 ans que ça dure.
Et ça, oui, c'est des blagues comme ça qu'on peut pas... Il y a des gens qui viennent pour ça. Donc.
Bernard Paco, puisqu'on est dans les souvenirs, je voudrais que vous nous racontiez alors rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, mais... ça va vite. Ce jour du 29 juin 1995, où deux chefs d'État ont mangé chez vous.
Oui.
Clinton. Et Chirac.
Et Chirac, oui.
Et ils ont mangé ces trois plats-là.
Ah oui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Clinton, il n'était pas sûr de rester parce qu'il avait eu des problèmes, l'attentat
en Égypte.
Il devait partir et il a pris deux fois la tarte au chocolat. Au lieu de partir à 22h, il est parti à 23h. Il se trouvait très,
et
très
y
bien.
Et il y avait d'autres clients dans la salle qui ne s'attendaient pas à voir ces présidents arriver.
On avait une dizaine de clients qui avaient réservé.
Et ce qui est fou, c'est que Frédéric Lafond, dans le livre, quand il raconte ce passage, il dit que vous ne craigniez pas de rater le dîner, mais de les empoisonner.
Mais j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas. Je sais pas, il peut avoir une allergie. Ils ont même, je crois qu'on a mis des huîtres en amuse-bouche.
Il y avait des goutteurs.
Ah oui, il y avait des goutteurs. Il y avait trois goutteurs. Hein. Et ils avaient trois caisses de coca dans la cour. Ils n'avaient pas le droit de. Ah non, c'était terrible.
Et comme Frédéric Lafond l'écrit, les bonnes adresses de resto se transmettent entre copains. Quelques années plus tard, le président François Hollande invite le président Barack Obama à l'Ambroisie, rebelote.
Rebelote, oui.
Et qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Vous vous souvenez du menu?
Alors là, c'est l'époque où il fallait pas trop dire, il fallait pas parler de caviar, il fallait pas parler de homard, vous savez, maintenant c'est plus difficile.
Île flottante au velouté de cèpe, drapée de truffes blanches.
Oui.
Lutte contre le terrorisme. Navarin de homard breton aux petites pommes de terre de Noirmoutier. Oui. Situation en Syrie et coalition contre Daesh. Plateau de fromage fermier et devenir des réfugiés. Pour le dessert, tarte fine au chocolat amer. Oui. Et sa crème glacée à vanille bourbon.
Elle est là.
Bien sûr.
Elle est bien sûr.
Merci beaucoup Bernard Paco
d'être
venu ce midi.
Merci
à
vous.
Et merci pour votre générosité.
Écoutez, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer.
Frédéric Lafond, Une vie par le menu. C'est un très joli texte, très beau livre qui est apparu aux éditions L'Iconoclaste, dans lequel on retrouve cette vie qui est la vôtre et votre œuvre qui est la vôtre, qui est votre cuisine. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère et notre technicien du jour Jordan Fuentes. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.